de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant la voix de l'Indonésie avec le journal. Je vais vous présenter quelques événements importants, entre autres. Trois missions indonésiennes au forum du ministre mondial de l'agriculture. L'agriculture devenant numérique, solutions intelligentes pour l'avenir de l'agriculture. Les manifestations qui ont eu lieu à Beyrouth, au Liban, se sont terminées dans le chaos. 12 projets pétroliers et gaziers devraient être exécutés d'ici 2020. 17 nouveaux cas de virus corona sont trouvés à nouveau en Chine. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet avec moi, Audrey. Trois missions indonésiennes au forum du ministre mondial de l'agriculture. Dans la 11e réunion biennale des ministres mondiaux de l'agriculture, qui s'est tenue à Berlin, Allemagne, du 16 au 18 janvier 2020, l'Indonésie a apporté trois missions importantes. Le ministre de l'Agriculture, Sahrul Yassin Limpo, a représenté la délégation indonésienne au forum. Sahrul Yassin Limpo, dans un communiqué reçu dimanche par Media Indonesia, 19 janvier, a déclaré que les trois missions visaient tout d'abord à éliminer les obstacles qui entrent les interventions d'aide alimentaire pour l'humanité. Deuxièmement, les pays développés doivent avoir un engagement ferme pour aider les pays en développement et sous-développés à progresser ensemble par le transfert de connaissances, l'innovation technologique, l'expertise et l'expérience. Troisièmement, faire de la nourriture un instrument important et stratégique en tant que langage de la paix mondiale. 840 000 hectares n'ont pas encore utilisé pour les algues, a déclaré le directeur général du ministre des Affaires maritimes et de la pêche. Le directeur général du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Slamet Subiakto, a déclaré qu'il y avait environ 840 000 hectares de terres efficaces qui n'a pas encore été utilisée pour la culture des algues, de sorte qu'elle serait optimisée par extensification. Slamet Subiakto, dans un communiqué publié dimanche à Jakarta, a déclaré que le ministère des Affaires maritimes et de la pêche s'intensifierait par l'innovation technologique et le développement de semences d'algues adaptatives. Selon Slamet, le ministère a réussi à développer des graines, des résultats, des cultures, des tissus et continuerait d'améliorer pour d'autres variantes, telles que les souches de Saculus. Les manifestations qui ont eu lieu à Beyrouth, au Liban, se sont terminées dans le chaos. Des dizaines de manifestants à Beyrouth, au Liban, ont été blessés après que les forces de sécurité soient utilisées des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser la manifestation contre le gouvernement samedi soir, heure locale. Les affrontements ne peuvent pas être évités lorsque les manifestants ont tenté d'approcher Martyrs Square, qui est devenu un point de rencontre pour les manifestants au cours des derniers mois. Les manifestants venaient de diverses directions et villes au Liban et se sont dirigés vers le cœur de la capitale, Beyrouth. Cette manifestation a été menée pour appeler à un changement du système politique et financier au Liban. Rami Khouri, professeur à l'Université américaine de Beyrouth, cité par Al Jazeera, a déclaré que la manifestation avait été menée comme une forme d'insatisfaction du peuple libanais envers le gouvernement. Ce nouveau gouvernement est une collection de technocrates qui ne cachent et ne gouvernent que pour certaines élites, dont les gens sont très en colère. En outre, Rami Khouri a déclaré plus tôt qu'il y avait également des manifestations à la Hamra, un célèbre centre d'affaires et de commerce à Beyrouth. À cette époque, les manifestants ont tenté d'endommager la fenêtre de la banque et un certain nombre de guichets automatiques. Il a ajouté qu'à cette époque, les gens avaient même du mal à prendre leur propre argent. S'ils peuvent prendre cet argent, le montant est très limité. En outre, la communauté se sentait très en colère et frustrée parce que beaucoup d'entre eux ont perdu leur emploi, ont du mal à payer les frais de scolarité des enfants ou ont payé les frais de chirurgie à l'hôpital. Bien que la communauté soit toujours active, maintenant les tensions sont en hausse au Liban. 12 projets pétroliers et gaziers devraient être exécutés d'ici 2020. 12 projets pétroliers et gaziers devraient commencer en 2020 afin d'augmenter la production de pétrole et de gaz de l'Indonésie, selon les données du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales. Le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, SDM Arifin Tasrif, a déclaré dimanche, dans une information écrite reçue par l'agence de presse Antara à Jakarta, que son ministère était en train de développer de nouvelles ressources pétrolières et gazières afin que l'Indonésie puisse trouver du pétrole et du gaz. Selon Arifin, les processus naturels tels que la quantité et le temps ont provoqué une baisse de la production de pétrole et de gaz au cours de la dernière décennie. Aujourd'hui, le gouvernement confie à Pertamina en tant qu'entreprise publique la gestion de plusieurs zones de travail qui ont mis fin à leur contrat et sont retournées par l'État. 17 nouveaux cas de virus corona sont trouvés à nouveau en Chine. Selon des informations provenant de la République populaire de Chine, 17 nouveaux cas mystérieux de virus corona de la même famille que le SARS ou le syndrome respiratoire aigu ont été retrouvés dimanche 19 janvier. Sur les 17 nouveaux cas, 3 d'entre eux sont dans un état grave. Cela a suscité des inquiétudes en raison de sa relation avec le SARS, qui a tué près de 650 personnes en Chine continentale et à Hong Kong en 2002-2003. La municipalité de Wuhan, en Chine, a déclaré que le virus avait infecté 62 personnes, dont 8 dans des conditions sévères. 19 personnes récupérées et sorties de l'hôpital, alors que le reste est toujours sous la garde d'un médecin, alors que 2 personnes seraient mortes à cause du virus, dont un homme de 69 ans décédé mercredi 15 janvier atteint d'une maladie qui cause la tuberculose et des lésions à diverses fonctions organiques. Les États-Unis resserre les vérificateurs d'aéroports liés au virus chinois. plus de 100 emplois des Center for Disease Control and Prevention, CDC des États-Unis, ont été déployés dans 3 aéroports américains. Le médecin a été chargé d'examiner les passagers en provenance de Wuhan, en République populaire de Chine, souffrant de fièvre et d'autres symptômes d'un nouveau virus mystérieux qui a tué 2 vies, ainsi que d'infecter des dizaines de personnes dans le pays. La politique est une étape très inhabituelle. La dernière fois, le directeur de la division Global Migration and Quarantine du CDC, Dr. Martin Sutherland, a déclaré que l'agence avait effectué des contrôles de santé de routine des passagers lors d'une épidémie d'Ebola en 2014. Le Centers for Disease Control and Prevention cible les passagers qui présentent des symptômes tels que la toux et des difficultés respiratoires et vérifie la température de chaque passager avec un thermomètre infrarouge. Les Centers for Disease Control and Prevention ont pris ces mesures après les touristes de Wuhan arrivés en Thaïlande et au Japon, infectés par le nouveau virus. Mohamed Moussaoui a été élu président du CFCM, Conseil français du culte musulman. Mohamed Moussaoui a été élu président du Conseil musulman français du CFCM le dimanche 19 janvier 2020. L'élection de Moussaoui n'a guère rencontré d'obstacles car son plus grand rival, Chem Eddine Hafiz, s'est retiré du marché électoral du samedi 18 janvier 2020. C'est ce qu'a informé RFI.fr sur son site internet dimanche le 19 janvier 2020. Selon RFI.fr, Mohamed Moussaoui prévoit de réformer le CFCM avec ses programmes comme la lutte contre la radicalisation. Il mettra en place un observatoire contre le radicalisme qui fait écho aux espoirs du président Macron. Car auparavant, le chef de l'État avait demandé au CFCM de lutter contre le communautarisme et l'islamisme. En tant que nouveau président du CFCM, il souhaite organiser la formation des imams et des aumôniers, un projet visant à promouvoir un islam authentique capable de protéger la jeunesse française de la propagande extrémiste. Selon Moussaoui, les organisations de cultes musulmans doivent être revues et renforcées à partir des niveaux départementaux. Les grands plans de lutte contre le communautarisme et l'islamisme, qui a été exhalé par le chef de l'État tout en suscitant encore les critiques de différents partis, car il était considéré comme ne représentant pas tous les musulmans français. Serge Littard, c'était Les Nouvelles.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le seuil parlementaire passe à 5%. » Les élections générales simultanées du président et de la législature qui ont lieu en avril 2019 n'avaient pas encore un an, alors que l'élection générale de 2024 est encore dans 4 ans. Mais la foule dans l'arène politique a commencé. Le discours d'une augmentation de ses parlementaires de 400 jusqu'à 5% tourne dans le cercle de partis politiques au Parlement. Ce discours s'est développé depuis que le Parti démocratique indonésien de lutte, ou PDIP, a tenu la réunion nationale de travail au Rakernas en 2020, du 10 au 12 janvier. La réunion nationale de travail ont formulé 9 recommandations, dont l'une d'entre eux est que le seuil parlementaire est augmenté à 5%. La proposition de PDIP a reçu une réponse d'un certain nombre de partis politiques au Parlement. Certains l'apprécient en raison de l'amélioration de la qualité de la démocratie en Indonésie. Cependant, certains partis se sont également opposés à ce que le seuil parlementaire proposé soit 5%. Selon ceux qui soutiennent ce discours, l'augmentation de ces parlementaires réduira le nombre de partis politiques. Mais le parti qui n'a pas obtenu un grand nombre de voix lors des élections 2019 a estimé que l'augmentation proposée d'un seul parlementaire ne serait pas suffisamment efficace pour simplifier le nombre de partis politiques. Cette augmentation fera un vote gagné par un parti qui ne se qualifie pas sera gaspillé. En effet, l'augmentation de ces deux parlements a lieu au sein du système électoral en Indonésie. Depuis 2009 jusqu'à présent, le nombre a continué d'augmenter de 2,5% à 3% et aujourd'hui à 4%. Aux élections de 2014, il n'y avait que 12 partis nationaux et 3 partis à Aceh qui ont participé à l'élection. Alors qu'aux élections 2019, avec une limite de 4%, il s'est avéré que le nombre de partis participants au concours était passé à 16 partis nationaux et 4 partis à Aceh. Cela montre que l'augmentation de ce parlementaire n'est pas très efficace pour réduire le nombre de partis politiques participant à la compétition électorale, mais fait les votes des personnes qui élisent des membres de partis, donc les partis qui ne respectent pas le seul, sont vains. L'augmentation de ce parlementaire de 4 jusqu'à 5% pourrait améliorer la qualité de la démocratie en Indonésie, mais la réalité doit être considérée. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez maintenant l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie. Maintenant avec moi Audrey. Nous commençons par l'événement du 20 janvier 1950, le programme Point 4, annoncé par le président américain Harry S. Truman. Le programme Point 4 est un plan d'assistance technique pour les pays en développement soumis par le président des États-Unis, Harry Truman, dans son discours inaugural le 20 janvier 1949, nommé le programme Point 4, car il s'agit du quatrième point du discours de Harry Truman. Cette aide a été réalisée en 1950 et a ensuite élargi son assistance dans les domaines de l'éducation et de la santé, visé à promouvoir l'investissement privé et l'influence des États-Unis dans ces pays. Chers auditeurs, passons maintenant à l'événement du 20 janvier 2009. Barack Hussein Obama a été nommé. L'inauguration de Barack Obama 2009 en tant que 44e président des États-Unis a été effectuée le 20 janvier 2009, conformément au 20e amendement à la Constitution des États-Unis. Il a été le premier Afro-Américain à occuper ce poste. En 2004, Obama a reçu une attention nationale lors de sa campagne pour représenter l'Illinois au Sénat américain grâce à sa victoire aux primaires démocrates en mars. Il a commencé sa campagne présidentielle en 2007 et en 2008, après une campagne préliminaire contre Hillary Rodham Clinton. Obama a remporté la majorité des votes de la délégation aux primaires démocrates pour devenir candidat à la présidentielle. Il a ensuite battu le candidat républicain John McCain lors de l'élection présidentielle de 2008 et a été installé président le 20 janvier 2009. Il a été réélu président en novembre 2012, a battu le républicain Mitt Romney et a été installé une deuxième fois le 20 janvier 2013. Chers auditeurs, nous concluons avec l'événement du 20 janvier 2017. Donald Trump a été nommé 45e président des États-Unis d'Amérique. Donald John Trump est un homme d'affaires, un personnage de la télé-réalité, un homme politique et le 45e président des États-Unis. En juillet 2016, il a été officiellement nommé président de la Convention nationale républicaine 2016. La campagne Trump a reçu une couverture médiatique et une grande attention et à l'étranger. Après la victoire de Trump aux élections, il a entamé le processus de transition gouvernementale. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Lagu Untukmu chantée par Raisa. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « L'industrie de transformation devient le soutien principal des exportations indonésiennes ». L'industrie de transformation fournit toujours la plus grande contribution aux exportations nationales. De janvier à décembre 2019, les exportations de produits de l'industrie de transformation ont pu atteindre plus de 126,57 milliards de dollars américains, soit 75,5% des exportations totales de l'Indonésie au cours de la dernière année qui a atteint 163,53 milliards de dollars américains. Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a déclaré à Jakarta jeudi, le 16 janvier 2020, que le gouvernement se concentrait effectivement sur l'augmentation de la valeur des exportations pour améliorer la balance commerciale de l'Indonésie. Par conséquent, le secteur manufacturier a un rôle très important pour atteindre ses objectifs. Selon les données de l'Agence centrale des statistiques, les 5 secteurs qui ont le plus contribué à la réalisation de la valeur des exportations de l'industrie manufacturière en 2019 étaient l'industrie alimentaire, les métaux de base, les produits chimiques et les articles chimiques, l'industrie du vêtement, le papier et l'industrie des produits en papier. Les 5 principales destinations d'exportation de produits manufacturés indonésiens au cours de la période de janvier à décembre 2019 sont les États-Unis, la Chine, le Japon, Singapour et l'Inde. Le ministre Agus Gumiwang Kartasasmita a souligné que le gouvernement continue d'élargir le marché d'exportation, en particulier vers les pays non traditionnels. Il a expliqué que diverses mesures stratégiques avaient été prises par le ministère de l'Industrie pour accroître la valeur des exportations du secteur manufacturier. Ces efforts comprennent le développement industriel en augmentant la compétitivité et en préparant des produits de qualité supérieure. De même, l'utilisation d'accords de libre-échange FTA, tels que l'accélération des négociations de FTA, l'expansion sur des marchés non traditionnels et l'initiation de FTA bilatéraux en fonction des besoins de l'industrie. En outre, un programme de promotion internationale a été mis en œuvre par le biais de la promotion et de l'aide à l'exportation, augmentant la capacité des producteurs à exporter, ainsi que la liaison et l'appariement avec les réseaux de production mondiaux. Agus Gumiwang a ajouté que l'Indonésie était le partenaire national officiel de l'événement Hannover Messe 2020. Cela pourrait être un bon élan pour introduire l'état de préparation de l'industrie indonésienne à l'ère 4.0. Promouvoir la coopération en matière d'investissement et d'exportation dans le secteur industriel et renforcer la coopération bilatérale avec l'Allemagne et avec les autres pays orientés vers l'innovation technologique. Cet événement est important pour l'Indonésie, non seulement parce qu'elle est le premier pays de l'ASEAN à devenir un pays partenaire officiel, mais soutient également les efforts de promotion de l'image de marque nationale sur la position d'Indonésie en tant que l'un des nouveaux pouvoirs de l'économie mondiale et des acteurs mondiaux de la fabrication. L'exposition se tiendra à Hanovre en Allemagne du 20 au 24 avril 2020. Serge Ritter, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Kau tak pernah berubah. Kau masih saja dengan beran yang kau tak suka. Apa kata ayah? Jadi pembatas ruang gerakmu berkarya. Maksud hatiku ingin bebaskanmu,
Sekilas yang aku dengar, sekilas yang aku dengar.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Konon Katanya, chantée par Kunto Aji. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans votre rubrique quotidienne, le magazine culturel. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons le lac Semayang en Kalimantan Oriental. Kutai Kartanegara est l'un des régions de la province de Kalimantan Oriental. Kutai Kartanegara est traversé par le fleuve le plus rasé de la province, à savoir le fleuve Mahakam. Le fleuve a un rôle important dans la vie des populations locales depuis le passé, comme la source d'eau, le potentiel de pêche, le moyen de transport, ainsi que l'objet touristique. Non loin de la rivière, il y a un objet touristique, à savoir le lac Semayang. Le lac a une superficie d'environ 13 000 hectares. Le lac Semayang est le plus grand lac à Kutai Kartanegara. Le lac est l'habitat de divers types de poissons comme le tomang, le lai, le jelawat, le poisson puyuh et la crevette géante. Parmi les animaux qui vivent autour du lac, il y a des animaux en voie de disparition qui sont toujours attendus par les touristes lorsqu'ils visitent ici, à savoir le dauphin et l'oiseau petit ular. Pour profiter de la beauté et de la biodiversité du lac Semayang, vous pouvez descendre le lac en bateau. Pour aller au lac Semayang depuis Samarinda, la capitale du Kalimantan Oriental, vous pouvez vous rendre à Bangun en voiture. De la ville de Bangun au lac, vous devez utiliser un bateau rapide payant par personne d'environ 50 000 à 60 000 rupiah. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel aujourd'hui intitulé Le Lac Semayang en province de Kalimantan Oriental. Nous nous retrouvons demain avec un autre sujet plus intéressant encore. À demain! Chers auditeurs, c'était la chanson de Yuki Tamada intitulée « Sakitnya tuh di sini ». Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc « Apprendre l'Indonésien ».
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission « Apprendre l'Indonésien », une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est perkenalan. Je répète, perkenalan, qui signifie se présenter. Bonne écoute. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien dont le titre est perkenalan ou en français se présenter. En voiture pour aller à l'hôtel, Kevin parlait à Monsieur Imran, un officier de l'université qui le cherchait à l'aéroport.
Mas Kevin, dari mana asal Anda?
Saya dari Darwin, Pak, Australia.
Oh, Mas orang Australia.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui, perkenalan. Perkenalan, ou en français, se présenter. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Dari mana asal Anda? Dari mana asal Anda? Qui signifie vous venez d'où? Asal Anda dari mana? Asal Anda dari mana? Qui signifie d'où vous venez? Anda berasal dari mana? Anda berasal dari mana? Qui signifie vous venez d'où? Saya dari Darwin, Pak, Australia. Saya dari Darwin, Pak, Australia. Qui signifie je viens de Darwin, monsieur, en Australie. Saya berasal dari Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Qui signifie je viens d'Indonésie. Oh, Mas orang Australia. Oh, Mas orang Australia. Qui signifie alors, monsieur, vous êtes australien. Dans le dialogue, vous écoutez Mas Kevin, dari mana asal Anda? Mas Kevin, dari mana asal Anda? Pour demander l'origine de quelqu'un, vous pouvez poser des questions. Dari mana asal Anda? Asal Anda dari mana? Ou Anda berasal dari mana? Le mot dari mana? Dari mana? C'est-à-dire venir d'où? Pour y répondre, vous pouvez montrer la ville ou le pays où vous habitez. Voici les exemples. Dari mana asal Anda? Dari mana asal Anda? Qui signifie vous venez d'où? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Qui signifie je viens de Jakarta. Asal Anda dari mana? Asal Anda dari mana? Qui signifie vous venez d'où? Saya dari Indonesia. Saya dari Indonesia. Qui signifie je viens d'Indonésie. Anda berasal dari mana? Anda berasal dari mana? Qui signifie vous venez d'où? Saya berasal dari Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Qui signifie je viens d'Indonésie. Pour montrer votre nationalité, vous pouvez dire « Saya orang » puis montrer votre pays. Exemple « Saya orang Australia. » « Saya orang Australia. » C'est-à-dire « Je suis australien. » Ou « Saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia. En français, je suis indonésien. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Mas Kevin, dari mana asal Anda?
Saya dari Darwin, Pak, Australia.
Oh, Mas orang Australia.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous.
Ku hampiri engkau meski kau jauh, sendiri ku tempuh hanya untuk bertemu denganmu. Ku hampiri engkau meski kau jauh, namun hatimu telah runtuh dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu. Bisa buatmu lulu, namun kau harus tahu bahwa diriku sungguh-sungguh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu.
Voice of Indonesia.
debu saling bersandar ke arah mata angin berbeda. Kau menunggu datangnya malam saat ku menanti fajar. Sudah coba berbagai cara agar kita tetap bersama. Yang tersisa dari kisah ini hanya kau takut ku hilang. Perdebatan apapun menuju kata pisah. Jangan paksakan genggamanmu. Izinkan aku pergi dulu. Yang berubah hanya tak lagi ku milikmu. Kau masih bisa melihatku. Kau harus percaya ku tetap teman baikmu. Oh, oh. Sudah coba berbagai cara agar kita tetap bersama. Yang tersisa dari kisah ini hanya kau takut ku hilang. Perdebatan apapun menuju kata pisah. Jangan paksakan genggamanmu. Yang berubah hanya tak lagi ku milikmu. Kau harus percaya ku tetap teman baikmu. Izinkan aku pergi dulu. Yang berubah hanya tak lagi ku milikmu. Kau masih bisa melihatku. Kau harus percaya ku tetap teman baikmu. Oh, oh.
Serge Littor, c'était la dernière chanson intitulée Pamit, chantée par Toulouse. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Bon, Serge Littor, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia avec le magazine musical, on se retrouve encore avec moi, Tiwi. Et cette édition, je vais vous présenter la chanson intitulée Bengawan Solo, chantée par Wiwik Sriyono. Bengawan Solo est l'une des chansons populaires de Keroncong. La chanson créée par Gesang n'est pas seulement chantée en Indonésie, mais aussi dans d'autres pays, comme au Japon. Cette chanson est même devenue la bande originale dans des films grand écran au pays du soleil levant. Comme le titre, la chanson parle de Bengawan Solo, une rivière de Solo à Java Central. Dans cette chanson, Gesang exprime son admiration pour la rivière de Bengawan Solo. Chers auditeurs, voici la chanson intitulée Bengawan Solo, interprétée par Wiwik Sriyono. Bonne écoute!
Solo.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'énergie pour le monde. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.